www.radio-g.fr.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle mission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, ce n'est pas Faustin qui anime ce soir, je me permets de prendre ta place. J'espère que t'es pas trop fâché contre
non,
moi.
Non, ça va.
Bon, bah ça va. Si c'est ok, tout va bien alors. Bienvenue à tous ce soir donc pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On va, comme d'habitude, débattre autour de ce plateau durant une heure de sujets liés à l'actualité sportive, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Et puis, dans cette belle épopée, forcément, je ne suis pas tout seul autour de ce plateau. À commencer par forcément le régisseur, l'homme qui a commencé à parler. Voilà, avant que je lui donne la parole. Faustin, bonsoir, comment vas-tu?
Salut Mathéo, salut tout le monde. Bah, ça me fait un peu de bien de retrouver un peu de chroniqueur, de redevenir chroniqueur.
Et ça fait plaisir.
De déléguer un peu l'animation. Je te la laisse pour ce soir.
Merci.
Je garde mon poste de régisseur, mais ouais, une très bonne semaine pour moi. Pas mal de choses en plus d'actualités sportives qui arrivent là avec Roland Garros, tout ça, on y reviendra. Et puis un championnat gagné de mon côté aussi.
Ah, ça, bravo.
Et bravo.
Franchement.
Faut le dire, bravo, bravo Faustin.
Et à la droite de Faustin, à ma gauche, Paulin. Bonsoir Paulin, comment vas-tu?
Salut Mathéo, salut Faustin. Bah écoutez, ça va super. On a du tennis, on a du basket, donc tout va bien. Et bonsoir à tous.
On se régale en ce moment avec l'arrivée des beaux jours. En plus, forcément, c'est une période qu'on adore tous, hein, Roland Garros à chaque fois. On va commencer avec l'actualité locale dès maintenant. Et la grosse actualité locale, c'est le basket. Et on va du côté de Cholet, Faustin.
Ouais, Cholet, ça s'est pas bien passé du tout pour ce premier match de quart de finale de Betclic Elite. Donc Cholet joue contre Bourg-en-Bresse. C'était à la Mairet et Cholet a perdu sur le score de 71-95. Les Choletais n'ont pas pris un seul carton aux joueurs de Bourg-en-Bresse. Voilà, avec un match dominé où les Choletais ont été dominés de bout en bout, avec une adresse à 3 points catastrophique, 5/20, et de nombreuses pertes de balles, 20 au total contre 10 pour ses adversaires. C'est donc un match très compliqué, il va falloir se reprendre très vite, parce que le match 2 arrive dès demain, 19h. Faudra obligatoirement le prendre pour espérer une qualification en demi-finale, pour jouer un Game 3 surtout.
Ouais, tout à fait, hein. Là, il se déplace du coup à Bourg-en-Bresse pour jouer ce match-là. Ça va être compliqué déjà quand tu perds ton match à domicile. C'est jamais facile après, mais on leur souhaite en tout cas de faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aller gagner là-bas.
Ouais, ça, et puis sur les trois matchs qu'ont joué Cholet contre Bourg-en-Bresse, il y a quand même eu deux défaites et deux grosses défaites d'au moins 20 points et une victoire de seulement 3 points. Donc on va espérer que ce soit pas si difficile pour espérer un game 3 et espérer une potentielle qualification en demi-finale évidemment.
Est-ce que tu avais d'autres actus? L'UFAB.
L'UFAB. Du côté de l'UFAB, il y a eu une nouvelle recrue qui est arrivée. C'est Madison Williams. J'avais pas l'actu sous les yeux maintenant, mais voilà, elle arrive de Serbie, de Belgrade exactement, et une poste 3 qui vient renforcer l'équipe, un cinquième transfert du côté de l'UFAB. J'imagine que le mercato doit maintenant être fini et l'effectif doit déjà être complet.
Métamorphose totale du côté de l'UFAB. On va voir comment ça va fonctionner la saison prochaine. On continue cette actualité locale en rentrant directement dans le grand bain des différentes coupes de l'Anjou en foot et en basket. À commencer par le football et les féminines. La victoire 2-1 de Montier, club de D1 face au foyer de Trélazé, pensionnaire de R2. Les filles qui imitent donc leurs homologues masculins, vainqueurs du trophée l'année passée. Un bel exploit. Chez les hommes, victoire de Saint-Pierre-Montrevaux 2-1 dans le match les opposants au club de Saint-André-Saint-Macaire à Segré ce dimanche. La 14e coupe de l'Anjou dans l'histoire du club, 13 ans après la dernière. En basket, les joueuses de Trémentine l'ont emporté face à Garenne, équipe de pré-régionale pour les 90 ans du club. Score final 52-35. Et puis du côté des masculins, c'est Longuet Basket qui s'impose contre Lemoine Basket Club, 94-74. Le club avait depuis quelques jours officialisé sa montée en R3. Handball maintenant, le club de Saumur-Doué est venu il y a deux semaines dans nos locaux pour parler justement de cette montée. Les joueuses ont enfin pu soulever leur trophée. Elles évolueront l'année prochaine en National 3, une soirée mémorable pour elles qui reviendront bien évidemment en début de saison prochaine pour nous parler des différents objectifs liés à ce nouveau statut de club national. Et puis ce dimanche, j'ai pu y assister directement de ma fenêtre, c'était le tour de Brissac qui a vu l'anglais Adam Mitchell s'offrir une deuxième victoire dans le même week-end après le trophée Gustave Bénion. Samedi en Vendée, victoire en solitaire, il s'est envolé à plus de 20 km de l'arrivée et à 100 mètres de ma maison. J'étais aux premières loges dans la fameuse montée de Saint-Saturnin, voilà, pour ceux qui connaissent, que je vais emprunter d'ailleurs en vélo ce soir en rentrant. Le sociétaire de la réserve donc de Total Energy aura tout raflé ce dimanche, meilleur grimpeur, meilleur sprinter, en plus donc de la première place. Place aux voitures désormais avec la course de côte de la Pommeraye de ce week-end avec un final haletant. Déjà vainqueur l'année passée, Marc Pernaud sort à nouveau vainqueur donc de ce duel attendu contre son rival Fabien Bourgeon. Demain sera peut-être le dernier match en grand chelem de Nicolas Mahut. L'Angevin de 43 ans qui a annoncé sa retraite en avril a repris la compétition après un an d'absence à Bordeaux, toujours donc avec Pierre Hugerbert, puis à Genève, vainqueur à Roland-Garros en 2018, puis en 2021 en double masculin. Il jouera demain dans cette catégorie avec son fidèle acolyte, donc contre les têtes de série numéro 4, les Italiens Simone Bolelli, je vais y arriver, et Andrea Vavassori. Ce sera à 11h, il jouera aussi demain en mixte avec Chloé Paquet contre Diane Paris et Harold Maillot. L'horaire n'a pas encore été donné. Et puis un autre Angevin, Clément Tabur, joue en ce moment contre Corentin Moutet. Paulin, tu as le score sous les yeux.
Ouais, tout à fait, c'est Corentin Moutet pour l'instant qui mène 2-7-0. Il a gagné le premier set 6-3 et le deuxième set 6, ça veut dire que Clément était pas loin d'aller chercher ce deuxième set, ça s'est joué au tie-break, et là dans le troisième actuellement il y a 2-2, donc deux jeux partout, et il y a 30-15 sur le service de l'Angevin.
Compliqué donc pour Tabur, mais pourquoi pas aller chercher un beau final.
C'est ça, déjà il y a ce troisième set, exactement, ce troisième set qui est un petit peu accroché, et puis on sait qu'il avait fait quand même des très très belles qualifications. Rien n'est encore fait, tout peut se passer.
À voir donc ce qui peut arriver. On a vu un Corentin Moutet aussi showman.
Oui.
Sur certaines vidéos.
Exactement, il change pas sa nature.
Mais en tout cas super match. On va passer au SCO, donc on continue d'essayer d'en parler. La semaine dernière on a fait une première partie sur les départs, les joueurs qui quittaient le club, qui est-ce qu'on voulait aussi peut-être voir partir. Il y a donc des postes libres logiquement, on a entendu notamment potentiels départs, que ce soit Delmelali, Abdelli, Fofana, et puis des départs déjà actés comme celui de Nian ou encore de Zindil Ulkhaled. Voilà, quel poste, moi je les ai sous les yeux, mais je me permets de vous questionner autour de la table, quel poste on doit viser en priorité du côté du SCO, Paulin?
Bah, moi j'ai quand même envie de dire principalement des ailiers, déjà offensivement, enfin quand on voit les départs donc de ces Elmelali, Ferhat, donc c'est de la part, il y a pas il y a un autre ailier aussi ou c'est les deux seuls ailiers?
On garde
Alevina.
On garde Alevina et après je crois que c'est tout, Raoul Izoa reste.
Ouais, c'est ça. Mais déjà la perte de deux de ces ailiers, à mon avis, enfin il faut forcément essayer de trouver une solution. Donc j'irai principalement sur ces postes-là, on va dire en priorité.
Et on aura pas mal d'infos à venir. Forcément, ça va être un mercato compliqué, d'autant plus que Chaban a annoncé justement que le club n'allait pas acheter, sans doute. Alors peut-être qu'il y a quelques 1-2 millions qui peuvent partir sur peut-être un ou deux joueurs. On peut l'espérer, ça au moins, pour aller chercher des profils. On a ciblé certains joueurs, donc on va en parler juste après. Faustin, comment tu le vois, toi, ce mercato qui va ressembler beaucoup à celui de l'année dernière? Va falloir réussir le coche comme l'année précédente, et ça, c'est une difficulté pour le SCO.
Bah, ça va falloir cibler les bons joueurs qui vont être libres, parce que, comme tu as dit, Chaban ne compte pas mettre, en tout cas, beaucoup d'argent pour acheter des joueurs, ce qui peut être aussi tout à fait compréhensible au vu du budget du SCO. Mais ouais, donc va falloir être bon sur le ciblage, recruter aux bons endroits. Voilà, il y a les ailes. Moi, je pense aussi à la défense qui a besoin d'être renforcée, à mon avis. À voir s'il y a des joueurs qui seront disponibles. Et ouais, ça va être très stratégique, j'ai envie de dire, comme mercato.
Ça va être un gros tournant aussi, parce que tu perds potentiellement trois titulaires à des postes clés. Et ça, il va falloir les remplacer. Pour ça, on a dressé une liste. Forcément, je vais vous citer certains noms. On va voir s'il y a certains profils qui vous tentent plus que d'autres. C'est un petit peu ça l'idée. Alors au poste de gardien, on a forcément une première information qui est sortie, celle de Kofi, le deuxième gardien de Lens. C'est une information qui est sortie il y a une semaine de cela. C'est peut-être la première grosse info mercato. Ça semble être aussi celle qui a le plus de chances d'aboutir. Et pourtant, moi, j'aurais aimé tenter le pari Mathieu Epolo. Mathieu Epolo, c'est un jeune gardien belge, hein, qui vient de Sion, qui vient du Standard, pardon. Sion, c'est un défenseur que j'ai juste en dessous, qui vient du Standard. Mais ça reste potentiellement un dossier compliqué, parce que pour le coup, on a Lens déjà qui est sur le dossier pour remplacer Kofi. C'est un jeune joueur de 20 ans, international U21, coté à peu près à 3 millions d'euros. Il a dit qu'il quitterait le club du Standard cet été. Est-ce que c'est ce genre de profil qu'on doit cibler du côté du SCO, que ce soit des jeunes prometteurs, mais au moins potentiellement des joueurs qui ont une certaine cote et qui peuvent exploser véritablement en Ligue 1?
Ben, je pense que tu peux avoir raison. C'est sûr que ça peut être pas mal. Après, du coup, comme tu dis, s'il est estimé à 3 millions, ouais, c'est-à-dire qu'éventuellement, il faudrait poser ces 3 millions.
Il est libre cet été.
Ah, il est libre.
Les trois quarts des joueurs que j'ai... Ouais. Dans tous les cas, si je parle pas de prêt, c'est que c'est des joueurs libres.
Ok. Oui, donc si c'est libre, oui, franchement, ça peut être une bonne idée. Hein. Comme tu dis, là, il a fait toute la saison, du coup, avec le Standard.
Ouais.
Il était titulaire
indiscutable, indéboulonnable là-bas. Là, j'ai quelques-unes de ses statistiques, notamment sur les playoffs. En 8 matchs, c'est 5 buts concédés pour 3 clean sheets. Donc après, ça reste des stats d'équipe, hein, forcément.
Oui,
mais
oui, tout à fait. Mais non, mais c'est
intéressant pour un gardien.
Oui, c'est sûr. Non, bah donc de ce que tu me dis, oui, ça peut être une très bonne idée, en tout cas pour le SCO. Oui.
Un gardien d'1m89, forcément, on sait que c'est un peu les standards de Ligue 1, le minimum. Faustin, ouais, qu'est-ce que t'en dis, toi?
Ouais, pareil, bah, c'est vrai que ça peut être un très bon apport pour le SCO. Et puis, voir dans la longueur, soit ça peut être un gardien qui peut très bien se développer et être un emblème, j'ai envie de dire, de l'équipe. Soit c'est, bah, pareil, il peut très bien se développer et prendre encore plus en cote. Mmh. Et ça peut être un joueur vendu, bah, encore plus cher, donc 3 millions, comme va l'être sûrement Yaya Fofana cet été. Même s'il part libre, il me semble, Yaya Fofana.
Peut-être.
J'ai plus l'info, mais ouais, il me semble que oui, il partira pas pour.
Je sais pas. Là-dessus, j'ai pas forcément l'info. J'espère que ça sera pas libre, mais j'ai pas vu forcément s'il était en fin de contrat. Yaya.
Ouais, bah, vu que ça Fofana parlait pas mal justement de un petit peu à quel prix il partirait, je sais pas. À voir. Faudrait qu'on trouve l'info là-dessus.
Ce serait intéressant. En tout cas, j'ai quand même ciblé un gardien d'un acabit un peu moins intéressant forcément, qui s'appelle donc Jacob Kastrom. C'est quelqu'un qui vient de Molde. Alors pour le coup, c'est moins de proximité avec nous. Mm-hmm. Mais ça reste un joueur qui est assez intéressant, et c'est un joueur surtout qui a explosé sur les 6 derniers mois. En fait, il était prêté à Göteborg et vraiment il a fait des matchs assez intéressants. Il a désormais une petite cote, libre cet été, il a 28 ans. il est dans la fleur de l'âge, il est très très grand, c'est un gardien qui fait 2 mètres. Pourquoi pas, mais bien sûr on tente d'abord le coup épaulo forcément.
Fana est en contrat jusqu'en 2026 du coup.
D'accord. Donc
il partira pas libre.
Okay. Il partira pas libre, mais pas forcément pour beaucoup non plus.
Voilà, ce qu'il reste qu'un an. 30 juin 2026, la fin de son contrat, exactement.
On verra ce que ça donnera. Voilà. Yaya Fofana, on espère au moins un petit paquet de 5 millions d'euros, ça pourrait être intéressant pour le
club. En Angleterre, ils peuvent mettre de l'argent.
Il y a moyen. Je parlais de Newcastle, s'il vous plaît. Voilà.
Il a son palmarès en plus, vu qu'il a gagné la CAN. Bon, c'est sûr que ça joue aussi.
Il a prouvé dans un des 5 grands championnats. Il a vraiment fait des matchs intéressants. Donc, je pense que c'est un gardien qui a une cote. Un an de contrat, c'est pas beaucoup. 5 millions, ça peut se tenter. En défenseur central, alors là aussi, en fait, je pars toujours du postulat que j'ai un joueur de rêve qui permettrait un peu de créer quelque chose d'intéressant dans l'effectif. Là, je pars sur Gora Diouf, donc Sion, joueur de Sion, le fameux joueur de Sion. Là, c'est un dossier aussi qui est très complexe parce qu'on a encore des clubs plus hauts que pour Épolo. On parle de l'Udinese qui est intéressé, on parle d'Offenheim, Bâle. Okay. Peut-être Monaco, sauf qu'il n'a aucune assurance d'être titulaire là-bas, parce qu'on a déjà des tauliers clairs qui jouent à son poste. C'est un joueur qui n'a pas joué toute la saison non plus en Super League, hein. Il a joué 60% des matchs, il a été un petit peu blessé, mais c'est quelqu'un qui est véritablement atelier et surtout qui est gaucher. Donc ça, après, le SCO ne cherche pas forcément un gaucher, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours un plus. Dans la tactique du jeu, c'est un joueur qui a une bonne qualité de relance, donc forcément c'est là aussi intéressant. C'est un joueur qui est coté à 3 millions d'euros. Est-ce que c'est un profil au vu des clubs intéressés qui vous paraît atteignable, vous?
Atteignable, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est un profil qui donne envie, hein. Comme tu dis, si déjà il y a des équipes comme l'Udinese, Offenheim et même Monaco qui sont dessus, ça veut dire que bon, on imagine que forcément il y a des scouts qui regardent ce que propose le joueur, donc ça veut dire qu'il est capable de faire des choses intéressantes sur un terrain. Je connais pas le joueur plus que ça, mais j'imagine qu'en tout cas de ce que tu me dis, ça peut être une recrue intéressante pour le SCO.
Ça va falloir quand même que le SCO pose une belle offre, je pense.
Bah du coup c'est toujours un joueur libre.
Belle offre,
j'oublie de le dire, mais
un beau contrat, je veux dire.
Par contre, oui. C'est un petit peu ça le souci, c'est toujours le problème des joueurs libres. Après on a toujours cette chose qui est plutôt intéressante, c'est que le marché des joueurs libres s'est un peu effondré l'année dernière. On avait beaucoup de joueurs qui, comme Rabiot, c'est pour ça que Rabiot a été à Marseille, qui demandait beaucoup de commissions d'agents. Et au final, ça revenait presque à un transfert pour les clubs. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce marché des joueurs libres qui est en baisse. Et pour des jeunes joueurs, l'opportunité de signer en Ligue 1, par exemple, en tant que titulaire, ça peut intéresser forcément.
On va voir s'il ne sera pas plus intéressé par une offre de Monaco qui lui permettra d'aller en Ligue des Champions. Même Bâle, il me semble qu'il va jouer à la Ligue des Champions.
Bâle, c'est intéressant pour lui. Bâle, c'est sûr. Même des clubs comme Offenheim qui sont quand même reconnus pour leur formation. Mais il faut voir ce qu'on lui propose.
C'est ça.
S'il vient ici, ce sera sans doute un titulaire indiscutable. Mmh. Et encore une fois, moi, ça me fait penser potentiellement au recrutement d'Omeragic à Montpellier. Qui à l'époque à Zurich était vraiment un joueur, peut-être l'un des meilleurs top 3 défenseurs de son championnat, et qui vient libre à Montpellier justement, alors qu'il a une cote largement plus grande pour les autres clubs, et finalement qui signe à Montpellier, pourquoi pas pour le SCO. On se permet de rêver, on ne sait pas comment Chaban sera en négociation cet été. En tout cas, sinon, moi j'ai préféré aussi cibler, pourquoi pas, des joueurs marocains. Ismaël Kandous, donc joueur de la Gantoise. L'idée, ce serait de se le faire prêter cette fois-ci. C'est un joueur qui est vraiment intéressant, qui a une cote à 2 millions, 27 ans, qui a été approché par Casablanca en tant que renfort pour la Coupe du Monde des Clubs, puisque Casablanca va jouer la Coupe du Monde des Clubs. Profil intéressant, 100% titulaire en Saudi Pro League. Il a marqué 2 buts. Pourquoi pas, là aussi excellent défenseur, en tout cas très solide.
Il a quel âge ?
Il a 27 ans.
27 ans, ok.
Il a 27 ans, donc là aussi c'est peut-être le genre de joueur que le SCO doit cibler. Peut-être qu'aller sur des profils plus jeunes, c'est un peu trop compliqué aujourd'hui dans le football actuel.
Ouais, et puis à 27 ans, du coup, l'expérience, on va dire qu'il l'aura, et c'est sûr que si tu diriges sur des joueurs plus jeunes, ça va être des joueurs qui vont aussi attirer un peu plus l'attention. Donc ça paraît être des profils de joueurs que le SCO justement peut un peu plus cibler, on va dire, que des profils jeunes qui vont avoir un petit peu les yeux rivés sur leur performance et qui vont justement attirer des clubs qui cherchent à se renforcer, quoi.
Ouais, ça, même un joueur expérimenté aussi, ça peut être intéressant, plus intéressant pour le SCO qui a une défense un peu fragile, et justement ramener de la dureté et de l'équilibre dans cette défense. Ça peut être bien, pour assurer certaines passes, certaines relances, ce qui est vraiment pas toujours le cas actuellement du côté du SCO.
Il y en a beaucoup critiqué aussi la Saudi Pro League, Mais on a quand même des offensifs ultra intéressants en Saudi Pro League, que ce soit des vieux comme des jeunes. Hein. On a vu Angelo de Chelsea qui est parti alors qu'il a 20 ans à Al Nassr. Donc on a tous les profils et pour le coup un défenseur qui a joué toute la saison contre tous ces profils-là, contre toutes les équipes, ça peut aussi être une garantie supplémentaire quand ça vient d'Arabie Saoudite. J'ai beaucoup été chercher dans le golf, mais pour mes défenseurs, je vais rester là en Europe. Le reste, il y a Fally Kandé que je voulais tenter. Alors là, ça serait une option pour être un troisième ou quatrième défenseur. C'était un défenseur qui était à Metz, qui était un peu en perte de vitesse, qui s'est relancé à Venise, prêt avec option d'achat. Finalement, il semblerait potentiellement que Venise ne lève pas l'option d'achat. Donc pourquoi pas aller le chercher, sachant que lui a déjà annoncé vouloir quitter Metz. On peut demander un prêt avec option d'achat à ce niveau-là, une option d'achat qui toucherait peut-être les 1 million d'euros pour un joueur qui lui aussi a 27 ans, fait 1m84, c'est un vrai rock, hein. C'est quelqu'un qui a passé 4 ans à Metz, qui a joué en Ligue 1 déjà. Ça peut être intéressant aussi. Et sinon moi, ma trouvaille, le joueur que je préfère en tout cas dans ces joueurs que j'ai cités, c'est Grégory Wuttrich du Sturm Graz. Donc équipe autrichienne qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a remporté son championnat aussi, et lui il en a été une pierre angulaire hein, de cette victoire. C'est un international suisse qui vaut aujourd'hui entre 3 et 4 millions d'euros, sauf qu'il part libre cet été, il l'a déjà annoncé. Pourquoi pas un retour en Europe, 30 ans encore une fois, ça peut se jouer, sachant que c'est un joueur qui est international suisse depuis 6 mois. Donc c'est quelqu'un qui est quand même sur une pente ascendante encore aujourd'hui. Ça peut être intéressant à ce niveau-là d'aller chercher ce genre de profil.
Ouais, c'est sûr. En plus, comme tu dis, là, ça veut dire que c'est en plus de ça un joueur qui a déjà eu de l'expérience sur du football européen. Donc ça, c'est toujours un plus. Quand tu arrives dans un groupe où il y a un petit peu justement des jeunes, que tu as des joueurs à cadrer, que tu as un collectif justement où tu peux apporter ton expérience et toutes tes qualités de joueur qui a déjà joué l'Europe, je trouve que ça, pour le coup, c'est déjà une qualité en plus d'un joueur que tu peux faire venir au SCO d'Angers.
Ouais, c'est clair que l'expérience, c'est vraiment ce dont on a besoin dans la défense, en tout cas, à mon avis. Et c'est ce que peut très bien apporter ce joueur. Après, à voir si l'offre du SCO, l'offre, je veux dire, plutôt sportive, dans les ambitions, tout ça, lui conviendrait. Mais oui, si on peut faire venir un joueur comme lui, ce serait extrêmement intéressant, c'est clair.
C'est vrai que l'offre du SCO, ça sera toujours plus ou moins le doute hein, par rapport aux joueurs qu'on va signer. Mais là, encore une fois, si tu veux te maintenir, c'est le genre de profil que tu dois totalement cibler. Ouais. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous sur l'expérience. On a pas mal de jeunes qui montent du côté du SCO aujourd'hui parce que forcément, on se doit de privilégier la formation avec le manque d'argent lié à tout ce qu'on connaît, notamment les droits TV. Ça peut être un plus. Ça peut être un plus totalement.
Ouais, carrément.
À voir. Pour moi, c'est le profil que le SCO doit cibler en numéro 1. Mais encore une fois, un international, tu le payes dans le salaire. Alors, il a joué 4 matchs avec la Suisse de mémoire. Et c'était il y a 4 mois la dernière fois. Mais pour le coup, ça reste un international avéré. Ouais. Et on verra. On va passer au milieu offensif. Et les milieux offensifs, pour le coup, alors, on en a parlé un peu en off. Moi, je me suis fait un petit kiff parce que c'est un joueur qui est en perte de vitesse, mais qui revient un petit peu, qui a une cote internationale de par son nom, donc forcément ça joue aussi. C'est Yanis Hadji. Yanis Hadji qui aujourd'hui a 26 ans, qui est libre cet été, qui vaut plus que 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Voilà, on l'a tous connu il y a à peu près 4-5 ans, quand c'était vraiment le playmaker des Rangers qui revenait, qui venait de remonter, etc. Voilà, Yanis Hadji, pourquoi pas. C'est quand même un joueur qui a joué la moitié de la saison en Scottish Premiership en tant que titulaire, qui a mis 4 buts, 7 passes décisives. Ça peut être intéressant, Yanis Hadji.
Ah oui, c'est sûr. Déjà, quand on connaît le nom, hein, le fils du célèbre Hadji, quand même une icône de la Roumanie. Et est-ce que lui, il a pas fait des. Oui, c'est ça. Hein, il a été prêté à Alavés, c'est ce que je regardais.
Ouais.
Donc il a été en
dernière et ça a été une plutôt mauvaise expérience.
Ouais. Hein. Ouais, parce que justement, c'est là de tous les joueurs que tu me parles, c'est au moins un profil que je connais. C'est-à-dire que c'est un joueur, je connais son nom et j'ai déjà vu en tout cas des matchs de sa part. Alors quand tu me dis ça, oui, c'est sûr que je vais pas te dire que ça c'est un profil qui irait pas au SCO parce que dans sa qualité dans le jeu et pour l'avoir vu jouer, alors je vais pas dire que j'ai vu jouer tous ses matchs, hein, mais j'ai déjà vu des matchs de sa part et comme tu le dis avec les Rangers et même aussi avec la Roumanie où il a déjà fait des matchs en Ligue des Nations. honnêtement, ça peut que être bénéfique d'avoir un joueur comme ça pour le SCO. Et pour lui, ça peut aussi lui permettre d'avoir un petit peu ce statut de leader, de joueur un peu reconnu sur un terrain dans une équipe comme le SCO, et d'être un petit peu, bah, finalement, la nouvelle star de l'équipe. Avec Esteban Le Poll, bien sûr.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est un peu le joueur où tu peux floquer son nom sur ton maillot. Et ça, c'est important aussi pour un club, je pense, d'avoir un joueur icône, un joueur vraiment que tu reconnais, que c'est le joueur de ce club, même si c'est peut-être plus Esteban Le Poll qui va prendre ce rôle. Avant, on avait Thomas Mongani. Donc voilà. Mais ouais, avoir un joueur. Un joueur comme ça, ça pourrait être intéressant à voir. Une fois de plus, c'est toujours le même problème pour moi. C'est l'offre sportive du SCO qui peut être pas assez intéressante pour ce genre de profil.
Et ça va, pour moi, totalement dépendre de l'envie du joueur aussi, c'est un joueur qui est sans doute appelé à aller en Arabie Saoudite ou au Qatar. Mmh. On connaît la danse, un joueur de 26 ans, connu.
Exactement.
Ouais. Voilà. Et encore une fois, on peut pas lui enlever, même si à 26 ans, c'est dommage d'avoir moins d'envie sportive. Mais encore une fois, on peut pas lui enlever le fait que l'Arabie Saoudite ça paye et que peut-être derrière il aura plus jamais cette perspective.
Et je sais pas quel est son rapport avec l'ambiance dans un stade. En tous les cas, entre l'ambiance aux Rangers et le stade Raymond Kopa,
ça va être compliqué. Bon,
pour le faire venir, avec tout le respect, bien sûr, bien sûr.
Non mais le stade des Rangers, c'est
que je pense que en termes d'ambiance footballistique sur le football écossais, on a quand même le droit, que ce soit les Celtics ou les Glasgow Rangers. Bon, quand tu vois un petit peu l'atmosphère qu'il y a là-bas, tu te dis, ok, c'est quand même pas mal. Surtout dans les ambiances aussi qu'on peut voir en Europa League. Bon, c'est quelque chose d'assez costaud. Donc ouais, aussi ça pourrait donner un petit challenge pour le stade Raymond Kopa de se dire, allez, nous aussi on y va encore plus, hein, même si c'est vrai que ça reste respectable l'ambiance qu'on y met dans ce stade.
Alors là, l'appel est passé. On verra. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, surtout quand t'es un joueur frisson comme les Hadji, ça peut faire une petite différence sur tes crochets. En tout cas, je suis parti plutôt sur un second choix, deux seconds choix. Oussama Tatane, donc un ancien joueur de Ligue 1, qui a retrouvé des couleurs au Qatar. Pourquoi pas faire un second Belkebla? Il a 31 ans, donc un choix pour l'année à venir, mais qui peut être intéressant aussi par la suite. On peut dire qu'il lui reste peut-être 2-3 années de bon football. C'est un international marocain qui est passé par Saint-Etienne. Il est formé au PSV, à l'Ajax. C'est un joueur qui sait s'adapter, hein, puisqu'il a connu 13 clubs dans sa carrière. C'est un joueur qui est très mobile, un peu à l'image d'Abdelli. Il a une qualité de passe assez impressionnante, une lecture du jeu qui peut coller avec un certain Esteban Le Poll. Il cherche souvent ses coéquipiers en profondeur, résiste bien aux attaques physiques et a une qualité dans les petits espaces qui le rend à la fois dangereux dans le cœur du jeu, mais aussi devant le but. C'est aussi un excellent tireur de coups de pied arrêtés, qu'il soit direct ou non. Donc il retrouve de la constance, hein, sur ces dernières années, et si vous voulez voir un peu le niveau qu'il pourrait avoir, je vous invite à consulter sa saison 2022-2023 avec Nîmes aux Pays-Bas, parce que depuis il est sur une nouvelle pente ascendante, un second souffle. Donc l'idée, ça serait de mettre Tanane, donc qui revient d'Arabie Saoudite, en titulaire, qui pourrait avoir envie d'une dernière expérience européenne dans un top 5 après son expérience au Qatar. Et dans ces cas-là, on en a parlé un petit peu en off, mais moi je fais Baptiste Moisan de Concarneau. Qui à 23 ans est valorisé à 500 000 euros sur Transfermarkt. Je crois pas qu'il soit, si, je crois qu'il est libre cet été. J'ai noté fin de contrat.
Ah bah, ce serait une bonne nouvelle.
Donc ce serait une très bonne nouvelle. 28 matchs en national, 10 buts pour 2 passes décisives. On en a parlé en off, mais je remercie quand même la personne grâce à qui je l'ai trouvé, qui s'appelle Emilien119 sur Twitter, qui a fait un thread. Voilà, je lui ai piqué ce joueur-là que je trouvais intéressant. Ce dispositif qui pourrait être d'avoir deux numéros 10 alternants, un titulaire presque indiscutable pendant 6 mois, et ensuite une nouvelle alternance avec un joueur que tu formes qui est jeune et qui en plus a quelque chose à revendre, parce qu'en national il a déjà fait de bonnes choses, ça peut être intéressant pour le SCO.
Mmh, ouais, tout à fait. Puis moi, ce que je te disais, c'est que Baptiste Moisan, j'avais pu le voir jouer justement en Ligue 2 contre le SCO au stade avec Concarneau, et c'est justement un joueur qui avait un petit peu attiré mon attention, et je m'étais dit, ok, c'est un joueur qui a quelque chose, et il avait fait du mal justement face au SCO. Il avait évolué un petit peu aussi sur le côté, ce qui montre que je pense qu'il peut avoir un profil assez polyvalent sur le flanc de l'attaque et même au milieu de terrain. Donc c'est toujours des joueurs que tu prends dans un effectif, et je pense qu'il a aussi une vraie qualité technique pied sur ballon qui peut être assez intéressante. Donc ouais, moi ça c'est un profil pour le coup qui, en plus, si tu dis qu'il est libre, qu'il est en fin de contrat, ça ouais, c'est dans les top recrues, on va dire, possibles pour le SCO, sachant que voilà, bon, t'as dit des recrues de rêve, ça c'est sûr que on aimerait bien voir certains joueurs dont t'as parlé, mais ça peut être un joueur où on se dit c'est possible, et un petit joueur là qui vient de National et qui performe en Ligue 1, on l'a déjà vu en la personne de Lepaule.
Parce que moi j'aime bien aussi ce que tu disais là, avec l'alternance au début le titulaire indiscutable et au bout d'un moment l'alternance, ça pourrait amener un vent de fraîcheur au milieu de saison. C'est un peu ce qu'on avait eu aussi cette saison, j'ai trouvé avec Esteban Lepaule,
oui,
qui dans le début ne rentrait pas trop dans le jeu ou tardivement dans les matchs et a fini par être parfois titulaire, parfois à rentrer dès la mi-temps et toujours amener ce vent de fraîcheur, marquer des buts, voilà. Donc c'est, si on peut avoir à peu près la même chose sur un poste juste un peu différent, ça pourrait être une très belle option, ouais, c'est clair.
Ce sera intéressant à observer. J'espère vraiment que le SCO va se positionner, ouais, dessus, parce qu'en plus en termes de salaire, passer de la nationale à la Ligue 1, ça donne des perspectives plutôt intéressantes. Je vais commencer à accélérer parce que je vois l'heure qui tourne. Je vais passer sur les ailiers. Je vais vous en donner deux d'un coup, et ces deux-là ont la possibilité de potentiellement jouer ensemble. Je trouve que d'ailleurs le SCO ne va pas assez chercher en Italie. Ça, c'est plutôt un problème, je dirais. Et je partirai donc sur Alessio Zerbin, qui est un joueur formé à Naples, qui a eu une formation sur le tard, il a percé vers les 22-23 ans. On sait qu'à cette époque-là, c'était une pénurie en Italie, donc il a pu être sélectionné avec la sélection italienne. Il fait partie des 10% des meilleurs dribbleurs de Serie A, et pourtant il a une cote qui est assez basse, hein. Il était prêté à Venise cette saison, un but, deux passes dé, pas souvent titulaire. C'est un joueur qui a un gros potentiel, qui arrive dans la fleur de l'âge, et pourquoi pas sur un prêt sec d'un an, en accord avec Naples, ça peut être intéressant. Et en plus, pour le coup, tu peux plus ou moins partager le salaire, donc c'est intéressant. Et le deuxième profil que j'ai ciblé, alors là, pour le coup, il y a vraiment une vraie opportunité, à mes yeux en tout cas, c'est Morlaï Sylla, qui est international guinéen et qui quitte donc Arouca, club portugais. Il est approché notamment par Augsbourg, donc je pense que... Au niveau du SCO, ça pourrait potentiellement se faire. Alors Augsbourg, bien sûr, c'est un club qui a fait une très bonne saison en Bundesliga et qui a une cote plus élevée que le SCO, mais lui ne viendrait pas pour être titulaire. Alors qu'à Angers, je pense qu'il pourrait venir pour être titulaire. Lui aussi, hein, 2 millions d'euros sur Transfermarkt, 2 buts, une passe D. Mais c'est quelqu'un qui a des vraies qualités de percussion et surtout un superbe extérieur du pied. C'est vraiment ce qui saute aux yeux quand on regarde ces compilations. Donc voilà, qu'est-ce que vous dites de ces deux profils? Est-ce que l'un pourrait aller avec l'autre, ou est-ce qu'on doit vraiment privilégier de faire une recrue par poste et après voir?
Une recrue par poste, on va dire, par rapport à tout ce que le SCO a mis en avant, en tout cas dans les discours qu'on a pu entendre, c'est vrai que on se dit qu'on peut pas trop être gourmand. Alors forcément, nous on va pas dire que si on peut le faire, on va pas mettre une croix sur le fait de doubler certains postes, etc. En tous les cas, je pense que t'as donné des profils qui étaient assez intéressants et qui nécessitent en tout cas de regarder et de se dire, y en a qui sont plus faisables que d'autres. Mais en tout cas là, pour les ailiers dont tu parles, je pense que dans tous les cas, comment tu nous les décris, ça me paraît être que bénéfique pour le SCO. Avec les départs justement de Ferrat et El Melali, en tout cas tels que les joueurs tu me les présentes, je me dis pas qu'on perd forcément au change. Donc pour
dans
moi,
tous les cas sur les ailiers d'Angers, je pense qu'on perd pas
c'est,
vraiment.
C'est ça.
Au
je
change.
Voulais pas être aussi méchant,
mais c'est normal, c'est une page qui se tourne, voilà. Mais puis c'est peut-être l'idée aussi d'apporter une vraie percussion moderne, de la vitesse. Pour le coup, plus que du dribble, même si du dribble on en aura forcément, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui au SCO, cette vitesse, cette profondeur de champ. Et on voit souvent Esteban Lepaule des fois tout seul en attaque avec le ballon et personne qui le rejoint, parce que justement on prévise pas assez la percussion, Faustin.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu vraiment sur tous nos postes on manquait de vitesse. C'est ça que apportait Esteban Lepaule. C'est pour ça qu'il a fait une si bonne saison et c'est pour ça qu'avoir recruté sur cette caractéristique, ça peut être plutôt intéressant pour le SCO, amener une nouvelle phase de jeu, amener encore une fois ce vent de fraîcheur et rentrer un peu plus dans ce football moderne.
On va passer aux ailiers droits maintenant. Je vais parler de mes rêves personnels, encore une fois. Voilà, mais des jeunes joueurs, donc en prêt, ça peut être possible. Iran Kunda du Bayern, un ailier supersonique, là aussi très 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 moderne, parfait pour la Ligue 1 et surtout intéressant pour les retours, notamment donc de Karlen Arcus. C'est un joueur qui pourrait venir l'aider. Ça serait assez intéressant. Il était prêté en Suisse cette saison. Il a performé, mais il n'a pas été non plus ultra flamboyant. En tout cas, rien qui pourrait lui ouvrir les portes de l'équipe 1. Il est prêté par le Bayern 2. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Il vaut 4 millions d'euros aujourd'hui sur sur Transfermarkt. Moi, c'est un joueur que j'ai déjà pu observer, qui est assez intéressant et dans le même profil, mais beaucoup plus technique. Yan Ming-yeok, peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est un joueur qui est prêté par Tottenham cette saison à QPR, qui a fait une moins bonne saison encore qu'Iran Kunda, mais c'était vraiment un profil très connu en Corée. Donc là encore, si on garde cette idée du maillot vendu, Yok, il peut en vendre pas mal. 19 ans lui aussi, c'est des profils qui sont jeunes, pourquoi pas pour des prêts secs. Encore une fois, est-ce que c'est la bonne idée pour le SCO de faire des prêts secs comme ça?
Ça, c'est des petites pépites là que tu nous avances, parce que c'est des noms, c'est des noms justement qui parlent, hein. Iran Kunda, il était pas en Australie?
Si, il était en Australie de base.
Il vient d'Australie, ouais, OK. Ouais, donc c'est des noms en tout cas qui ont fait parler justement en arrivant dans des clubs, en étant signé par des clubs comme le Bayern et Tottenham, c'est que c'était des joueurs qui attiraient justement qui attiraient l'attention. Alors c'est sûr que des joueurs comme ça fait rêver. Comme tu dis, Presek, après c'est l'accord que tu vas trouver aussi pour pouvoir les faire, mais c'est pas, enfin moi, pour moi c'est loin d'être une mauvaise idée.
Ouais, les prêts, moi ça, en général ça me dérange un peu, faut pas en abuser, j'ai envie de dire. Ou après tu peux te retrouver dans des situations où tu te retrouves sans joueur sur certains postes. Là, faudrait pas faire, je pense, faire deux prêts au même poste, ce serait une erreur. Mais ouais, faut se limiter sur les prêts, faut faire attention pour avoir quand même une capacité d'avenir. Sauf si évidemment tu trouves une option d'achat pas trop chère non plus. Mais ouais, je dis attention sur les prêts.
Moi, je pense que option d'achat sur des joueurs comme ça, ça monte trop vite, donc c'est ça le problème.
Impossible, et je pense que que ce soit sur l'un ou sur l'autre, tu touches facilement les 10 millions aujourd'hui avec l'imprévisibilité de leur éclosion.
Oui, exactement.
Donc j'avais deux autres ailiers droits, toujours en championship, donc je vise Grady Diangana de West Bromwich. Alors le salaire, ça peut être un problème, c'est un peu l'ancienne star de West Bromwich. À l'époque, il est arrivé pour 13 millions de West Ham, aujourd'hui il a 27 ans. C'est un joueur qui a perdu sa place de titulaire cette saison, mais qui stade quand même, 4 buts, 3 passes en championship. Alors il y a beaucoup de matchs, hein. Lui il en a joué 34, mais quand même, ça reste un joueur qui stade. C'est surtout un excellent dribbleur, qui a une grosse implication défensive, hein. Il est dans les 30% des ailiers qui défendent le plus en championship, donc ça c'est aussi assez intéressant. Et puis j'avais mis pas mal de joueurs en fait. Je viens de descendre. Un autre qui peut être intéressant, ça peut être Adam Ounas, parce qu'Adam Ounas, il est parti au Qatar. Adam Ounas, il a pas pu jouer de la saison parce que il y avait pas assez de place pour inscrire Adam Ounas. C'était le même problème avec Youssef Attal, et il se retrouve libre cet été. C'est un joueur donc qui n'a pas joué, qui perd en cote et qui lui perd forcément en attention de salaire. C'est un joueur qui aujourd'hui a 27 ans lui aussi, qui se retrouve à un moment de sa carrière où il peut avoir envie justement de se relancer, et il peut se relancer. Adam Ounas, c'est quand même un joueur qui a du talent. Le SCO pourrait accueillir Adam Ounas aujourd'hui. Ça paraît plus plausible que des joueurs comme Iran Kunda par exemple.
Moi, je suis assez sceptique sur ce genre de profil, justement avec un joueur en perte de dynamique finalement. Et je sais pas si le SCO c'est la meilleure équipe non plus pour se relancer de cette dynamique, et si au contraire ça peut pas lui le plomber et plomber en même temps son poste, et du coup en même temps déséquilibrer le jeu du SCO. Pour moi, ça peut être assez vite un plan bourbier de recruter ce genre de joueurs et de miser dessus.
Ça peut être assez compliqué, mais encore une fois, Adam Ounas, c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1.
Ouais.
Je suis d'accord, il faudrait lui mettre peut-être de la concurrence derrière,
ça, ouais.
Potentiellement un jeune joueur. Alors peut-être pas du coup des profils qui viennent de top clubs européens, mais pourquoi pas des plus petits profils. Et en ce sens-là, moi j'ai Djergjei Chitashvili, qui vient de faire une grosse saison en D2 espagnol à Grenade. C'est un Géorgien, 7 buts, 3 passes D. Si moi j'avais plutôt imaginé une vente autour du million d'euros. Pourquoi pas, c'est un joueur qui est vraiment très technique et surtout qui a une belle qualité de frappe.
Mais je crois que je vois de qui tu parles, je crois surtout qu'à
ça c'est génial.
Non, mais c'est surtout qu'à la Coupe du Monde, je crois qu'il m'avait choqué.
Ah oui, mais c'est un Géorgien, ouais.
À la Coupe du Monde, à l'Euro, pardon. Je dis n'importe quoi, c'était à l'Euro, mais oui, c'est un joueur qui aussi justement m'avait surpris, parce que je me souviens, je crois, il met une espèce de demi-volée à un moment donné. Je me dis, c'est qui ce joueur? Et je m'étais renseigné, j'avais vu qu'il jouait justement à Levante. Donc, dans un profil comme ça de joueur qui peut être très bon dans les petits espaces, très bon dans les dribbles et qui a une grosse qualité de frappe. Bon, ça c'est sûr que, en tout cas, moi, c'est des profils de joueurs qui me parlent, et surtout pour les avoir vus évoluer, je me dis que il y a quelque chose, quoi.
Pour le coup, on aurait notre Géorgien nous aussi. Ça c'est génial vu que c'est la mode en Ligue 1 en ce moment et que ça marche bien. Pourquoi pas. Et puis sinon j'avais voilà, moi il y a un joueur que j'adore mais ça me paraît impossible à aller chercher, c'est Noah Ejuma de Toulouse. Qui est un jeune joueur qui a commencé d'ailleurs contre Lyon, c'est aussi pour ça que je le connais, c'est son premier match de Ligue 1. Et il est monstrueux, Noah Ejuma, je le trouve beaucoup trop fort, international U20 français. Après personnellement, encore une fois, moi je le répète à toutes les émissions, mais moi j'ai confiance en Kalumba. Voilà, je le dis, j'ai confiance en Kalumba, il a encore 20 ans, il est très jeune, il revient d'une blessure. Je pense que Kalumba, si on le met en numéro 2 à ce poste d'ailier droit, parce que c'est celui que semble lui avoir confié Alexandre Dujeu, je pense que ça peut bien marcher. Et enfin, je vais finir avec rapidement un pêle-mêle avec quelques numéros 9, pourquoi pas en doublure d'Esteban Le Poll. J'avais visé en prêt pourquoi pas Matheus Nascimento de Botafogo. Ça peut être un petit prêt intéressant, c'est aussi parce que moi j'aimerais bien que le SCO aille chercher en Amérique du Sud, il y a vraiment des profils intéressants, ou Joe Gellard aussi de Leeds qui sort d'un plutôt bon prêt à Hull City, voilà, ancien crack déchu du football anglais mais qui reste encore jeune. En tout cas le SCO souhaite Magri en retour, on pourrait souhaiter aussi un retour de Toko Ekambi qui est libre cet été, Amine Salama aussi qui pourrait revenir en prêt de la part du Stade de Reims. Mais moi il y a un joueur que dont j'ai souhaité parler, c'est Zini, c'est un joueur angolais de 22 ans, prêté par l'AEK Athènes à l'Apo Levadiotkos. Voilà, en un an il a fait 29 matchs, 14 buts, 5 passes décisives en championnat. Ça pourrait se jouer autour du million voire 2 millions d'euros, un prêt avec option d'achat, pourquoi pas. C'est un joueur qui a une palette technique vraiment impressionnante, notamment dans la surface, un jeu de corps qui est vraiment excellent, une science du placement et surtout une technique qui est assez folle. Il y a une Magère notamment qu'il avait mise, je sais même pas contre quelle équipe, je l'ai vu passer, et elle est vraiment impressionnante cette Magère. Donc voilà, là aussi, est-ce que c'est une priorité un deuxième numéro 9 ?
Par rapport à tous les postes qu'on a pu évoquer, moi je sais pas si c'est une priorité. Et après, dans les profils de joueurs que tu cites, ça peut être intéressant. Après, comme on le sait, de toute façon, t'as donné plein de joueurs, t'as donné plein de postes. On sait que ce sera pas possible de répondre à toutes ces attentes-là. Pour le coup,
on en aura un.
C'est ça.
Honnêtement, il y a tellement de joueurs qui jouent au foot que.
Non, mais dans ta liste. Non, mais un en tout cas sur le mercato, j'aimerais quand même que.
Oui,
ça me ferait peur sinon.
Sur la DNCG, mais. On verra ça.
Mais oui, c'est sûr que les profils que tu nous annonces, en tout cas, sont pour la plupart assez alléchants et pourraient donner envie, en tout cas, de les voir évoluer au SCO. Déjà, merci pour ton travail.
Avec plaisir. Ouais.
On a vu le fan de Football Manager sortir.
J'ai passé ma journée sur Transfermarkt à mater des compiles sur YouTube, c'était sympa en vrai à mettre en place et ça nous donne un beau petit 11.
Voilà.
En tout cas, on va peut-être passer à la pause musicale maintenant, Faustin, pour après rusher le JT international, ouais, parce qu'on a pris beaucoup de temps là.
En effet, ouais, 20h42, on va s'enchaîner un titre court, enfin court, 2 minutes 30 de Zamdan, ça vient de sortir, voilà son album Lahma. Ce sera Les Jolies Filles en feat avec PLK.
Je fais le tour de la ville avec la beuh dans le caleçon. Les jolies filles aiment les mauvais garçons. Si ça va mal dans notre relation, choisis une date, une destination. Demande tu fais quoi dans ma vie. Je me débrouille, j'en la huit. En ce moment l'état de mon cœur semblable à une zone à risque. Si on s'enfuit ce soir, toi et moi dans un gamme en store. Et que ça nous fait une belle histoire. Tout ce qui se passe ailleurs est dérisoire.
Madame est bon chic, bon genre. Mais quand on rentre avec et je déchire son short. Le cul et les écus, un coup. Planqué sous le 5 coup. En décapotable, chasse un clou. Une aide de soleil pour faire stylé. J'ai des chèques à faire signer. Tout baiser ma destinée. Je suis comme dans un film avec ma démon. Moi je m'en regardais comme. Et je baisse que des bonnes meufs. Je suis pressé comme un fils de ministre. Te tends la main, moi je fais pas la bise aux bitches. Concentré sur les talbans, les housses, les dollars. Je crois au fond, je suis juste un putain de connard. J'aime trop ce regard énervé. Quand elle me demande où ça mène, peut-être que j'ai merdé. Bah ouais, j'ai trop négligé sa peine. J'ai fait le tour de la ville, je connais tous les ponts de Paname. La banlieue, le neuf de les pirates qui n'ont pas d'âme. Que des frères, je n'ai pas d'amis. Elle a le même boulard qu'une Pagani. Mon train de vie ne m'aide pas. Elle veut qu'on ait des enfants, qu'on vive sous le même toit.
Mais je sais même pas si je m'aime moi. Dis-moi, tu veux qu'on aille ou tu veux qu'on fasse quoi? Pour moi, l'amour c'est un poids. À deux, c'est la galère, tu veux qu'on soit trois. Je crois que ta présence me réchauffe, mais t'as mon cœur, il fait froid.
Les jolies filles aiment les mauvais garçons.
Les jolies filles aiment trop les bad boys, bad boys.
Les jolies filles aiment les mauvais garçons. La raison pour laquelle je la veux, c'est qu'elle m'appartient pas. La raison pour laquelle je la veux, c'est qu'elle me ressent pas. Les jolies filles aiment les mauvais garçons.
Les jolies filles aiment trop les bad boys, bad boys.
Les jolies filles aiment les mauvais garçons.
Les jolies filles aiment trop les bad boys.
Zamdanon featuring avec PLK. Sur Radio G, vous êtes toujours à l'écoute de Génération Sport. On a pris pas mal de temps, 45 minutes, à parler des actus locales, 46 maintenant. Et on va passer aux actus internationales directement avec toi, Paulin. En tout cas, actu nationale, tu vas nous parler de Roland Garros.
Exactement. Alors ça y est, Roland Garros a commencé depuis dimanche dernier. Et on est parti pour une quinzaine pleine de pop, 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 pololo, de Marseillaise.
Ouais, j'avoue, j'ai fait.
De tous ensemble, et aussi de qui ne saute pas n'est pas français. Bref, tout ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer en tant que fans de sport et de tennis. Enfin, ça, on essaye d'en profiter au maximum sur les premiers tours et on croise les doigts pour que nos Français et Françaises aillent le plus loin possible dans ce tournoi si prestigieux. Revenons d'abord donc sur la journée de dimanche où les têtes de série, donc Tommy Paul, Musetti, Frances Tiafoe et Ben Shelton se sont qualifiés pour deuxième tour pour les hommes. Chez les femmes, donc c'est Sabalenka, Paolini, Zheng et Svitolina qui ont fait le boulot. Côté français, c'est l'immense Giovanni Mpechi Pericard et son service ultra puissant qui a réussi à se défaire du belge Zizou Bergs pour avancer au tour suivant où il affrontera le bosnien Zoumour. Donc là, il y a quelque chose à faire aussi pour Mpechi pour rejoindre le troisième tour. Et l'autre français, donc c'est Quentin Alice qui a vu son adversaire Thomas Matchak abandonné, lui permettant de poursuivre son aventure sur les terres parisiennes pour affronter demain le serbe Miomir Kecmanovic, donc au deuxième tour. Donc on sera évidemment derrière eux dans leur quête d'un troisième tour à Roland. Passons maintenant à lundi où j'ai passé ma journée à crier « Let's go Arthur, let's go » en supportant d'abord Arthur Cazot qui s'est malheureusement incliné en 5-7 face au Chilien Tabilo, puis Arthur Fils, là où beaucoup de nos espoirs reposent pour cette quinzaine, qui est venu à bout d'un autre Chilien, donc Nicolas Jarry en 4-7, et enfin c'était Arthur Rinderknecht qui n'a pas réussi à créer l'exploit face au numéro 1 mondial Yannick Sinner, malgré un début de 3e set exceptionnel où le Français avait double breaké l'Italien, en emmenant le public avec lui et en jouant un tennis fantastique. Il a lâché des amortis à l'aveugle. Il a serré la main d'Ousmane Dembélé dans le public. Enfin, franchement, c'était vraiment cool à voir. Il a fait le show sur le Philippe Châtrier. Et en plus, il a pris du plaisir, même si bon, il finit par perdre. Mais c'était assez cool à regarder. Hugo Humbert a aussi gagné et a été très convaincant en s'imposant 3-7-0. J'ai regardé un petit peu sa partie de tableau et au vu des joueurs, parce que bon, Dimitrov a abandonné aujourd'hui et Medvedev s'est fait éliminer, mais je vais en reparler. Et ben Hugo Humbert, il peut avoir potentiellement sa carte à jouer pour rallier carrément les quarts de finale de Roland au vu de son tableau. Donc ça peut être intéressant et on va garder en tout cas notre attention sur Hugo. Un autre Hugo, c'est Hugo Gaston qui a gagné dans son duel franco-français face à Hugo Blanchet. Mais Gaston a malheureusement déclaré forfait aujourd'hui pour blessure. Donc bah, c'est la fin de l'aventure pour Hugo Gaston malheureusement. Il devait jouer contre Ben Shelton. Donc Ben Shelton passe directement au troisième tour. Notre Richie National, pour son dernier Roland, va continuer à nous faire vibrer après qu'il se soit imposé face au jeune français Terence Atman. Et il affrontera Yannick Sinner au deuxième tour. La question que je vous pose, c'est peut-il nous faire frissonner une dernière fois et créer un des exploits les plus fous de sa carrière en éliminant le numéro 1 mondial devant son public? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pourquoi pas?
En vrai, forcément,
on signe direct. Ça paraît compliqué quand même, parce que Sinner, on l'a déjà vu à Rome. Après, à Rome, c'était autre chose, mais il a été tellement, tellement solide face à des adversaires qui étaient plus faibles que lui sur le papier, que ça paraît compliqué. Après, il a battu Atman, même si Atman a été quand même décevant.
Ouais, et puis blessé. Bon, c'est son comportement déjà été.
C'était un peu bizarre.
Ouais, c'était bizarre.
Match.
Et blessé, en même temps, sa blessure, tu sais pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il en a marre? Il prend 6-0 dans le dernier set. Enfin. Ouais.
Il y avait beaucoup de pression, forcément.
Ouais, aussi.
Tu pensais que tu allais arriver à Roland-Garros avec tout le public. Au final, c'est l'inverse qui se passe. Forcément, ouais. J'imagine que c'est assez compliqué. Mais pourquoi pas, on le souhaite en tout cas, la victoire face à Sinner.
Toi, qu'est-ce que t'en penses, Faustin?
Ouais, ce qui est sûr, je pense, c'est qu'il va tout donner. Hein. Mmh. Pareil, il va essayer de faire le show. Il sera devant son public, tout le monde le supportera. Donc, il n'aura pas le choix de tout donner, en fait. C'est simple. Après, ça va forcément être extrêmement compliqué pour lui. Mais bon, on va croire à un exploit.
Ouais, ce serait franchement magnifique. Donc, pour finir sur la journée du lundi chez les hommes, Alcaraz, Sinner, Casper Ruud, Tsitsipas et Holger Rune ont gagné. Mais Taylor Fritz, donc la tête de série numéro 4, s'est vu sortir dès le premier tour. Passons aux dames maintenant. Donc, Rybakina, Swiatek, Badosa et Madison Keys ont fait le boulot. Et pour nos Françaises, c'est avec émotion que nous avons assisté au dernier match de Caroline Garcia à Roland Garros, qui s'est malheureusement inclinée face à l'américaine Pera et qui dit adieu à la terre battue parisienne. Léolia Jean-Jean, elle, après cette fait gifler 6-0 dans le premier set, s'est réveillé sous les chants du public avec les « let's go Léo, let's go » et a finalement gagné son match face à Bégou, souffrante en fin de match qui a dû abandonner. Aujourd'hui, j'ai encore pas raté une miette de ce qui s'est passé porte d'Auteuil. Et chez les hommes, donc Daniil Medvedev a connu une nouvelle désillusion parisienne et a perdu en 5-7 face à Cameron Norrie, mettant fin très vite à ses espoirs de titre. Et c'est la sixième fois qu'il se fait sortir au premier tour de Roland-Garros, presque une habitude finalement pour lui sur les terres parisiennes. Zverev, lui, a fait le travail en 3-7 gagnant, tout comme l'Australien Alex de Minaur. Djokovic a lui aussi déroulé en mangeant McDonald's. Bon, petite vanne comme ça,
je les tente.
Chez les filles, la jeune Mira Andreeva s'est qualifiée, tout comme Coco Gauff. Donc ça, c'est deux des potentielles favorites pour aller loin dans ce tournoi chez les femmes. Alexander Müller m'aura fait lever de mon canapé plusieurs fois, mais a cédé face au Tchèque Jakub Mencić en 4-7, alors que les applaudissements du public grondaient dès que le Tchèque ratait une première balle de service. C'était assez marrant. C'est-à-dire que sur son deuxième, il avait full pression, mais il s'en est plutôt bien sorti. Chez les filles, la Française Varvara Gracheva n'a pas été à la hauteur face à Sofia Kenin, et Chloé Paquet a perdu en 3-7, alors qu'elle menait 5-2 dans la dernière manche et que je chantais « Et pour Chloé, allez, allez !» avec tout le court numéro 7. Ça n'a pas suffi. Donc les belles surprises, c'est Elsa Jacquemot et Loïse Boisson qui ont réussi à se qualifier. Il y en a une qui affrontait Maria Sakkari, donc c'est Jacquemot qui affrontait Sakkari, ancienne numéro 3 mondiale quand même, faut le préciser. Très belle performance de la Française. Et pour Loïse Boisson, elle arrive à bout de la tête de série numéro 24, Elise Mertens. Donc pareil, c'est des très belles performances de nos joueuses françaises. Ça fait plaisir aussi qu'elles aillent justement sur ce deuxième tour. Là, pour vous donner les derniers résultats en direct, on a Corentin Moutet qui a donc battu 3-0 Clément Tabur. Donc premier match à Roland avec une défaite pour Clément.
Et une défaite quand même.
Oui. Oui, et puis Corentin Moutet, il a fait 8e l'année dernière à Roland-Garros, donc aussi c'est un tournoi qu'il connaît bien. Et Gaël Monfils, donc son match a commencé, malheureusement ça commence pas très bien. Il a pris un temps mort médical dès le premier jeu, donc je sais pas trop ce qu'il a, mais en tout cas c'est mauvais signe. Et il perd 3-0 dans le premier set, et il y a une balle de break, donc de double break pour son adversaire. Donc ça,
compliqué.
Ouais, en espérant que pour Gaël, y ait un petit peu de mieux. En tous les cas, Roland Garros, ça continue et on continuera de vous faire les updates sur le tournoi.
Et de supporter les joueurs français.
Évidemment, alors moi toujours là pour chanter quand il faut.
On va prendre l'avion, on va passer outre-Atlantique et parler NBA avec toi, Paulin.
Ouais, exactement. Alors on peut faire un point sur les finales de conférence en NBA qui sont maintenant bien avancées. Donc tout d'abord, je vais garder mon équipe pour la fin. Après s'être fait littéralement détruit lors du match 3, donc perdu 143-101, OKC a remis les pendules à l'heure et a gagné le match 4 128-126 cette nuit, leur permettant de prendre une avance confortable dans la série. Ils mènent maintenant donc 3 matchs à 1, rendant désormais la tâche compliquée pour les Loups de Minnesota, sachant que le match 5 a lieu à OKC et qu'il ne leur reste plus qu'une victoire à aller chercher pour rejoindre les finales NBA pour seulement la deuxième fois de l'histoire du club d'Oklahoma City Thunder. Cette nuit, SGA, donc le MVP en titre, a été sensationnel avec 40 points, 9 rebonds et 10 passes décisives, aidé par son lieutenant Jalen Williams et ses 34 points avec 6-9 à 3 points. Chet Holmgren a aussi été très fort. Donc déjà, quand OKC, on voit la défense qu'ils peuvent proposer, et quand les trois joueurs entre guillemets un peu phares de cette équipe performent, c'est compliqué pour les Wolves, alors qu'ils étaient quand même dans le match parce qu'il n'y a que 2 points d'écart à la fin. Mais en face, Anthony Edwards aurait été très bien défendu par les joueurs d'OKC, le retenant à seulement 16 points. Donc le chemin semble tout tracé pour OKC et je vois mal comment les Wolves pourraient inverser la tendance. Faustin, est-ce que tu as un avis là-dessus?
Ouais, moi je suis plutôt de ton avis. Hein. C'est clair que là, OKC a l'air très très bien lancé. Et s'ils continuent comme ça, je les vois même aller chercher le titre, j'ai envie de dire sans trop de difficultés même. Parce que ouais, c'est dans le jeu, dans ce qu'il propose, c'est vraiment la meilleure équipe de basket sur toute la saison, en fait, pas qu'en play-off, pas qu'en saison régulière. On l'a vu, ils ont su faire le taf tout le temps. Et quand ils se mangent une claque, ils arrivent à réagir. Ça les réveille justement. Et ouais, le MVP le MVP aussi a bien été choisi. J'ai l'impression il sort vraiment des énormes perfs. Donc ouais, moi c'est mon petit favori pour aller chercher la finale.
Ouais, bah en tout cas je pense que de ce que je peux voir et de ce qu'on peut voir sur le terrain et sur ces playoffs NBA, c'est vrai que OKC répond globalement quand même très présent par rapport à ce qu'ils font. Et quand on voit les autres équipes où justement on sent que c'est un peu friable sur certains aspects du jeu, on se dit bah là OK, si ils ont quand même les armes pour aller chercher ce titre, sachant que quand même depuis ce qu'ils montraient sur la saison régulière, c'est une des équipes qui confirme justement en play-off. Ils ont montré qu'ils étaient très forts en saison régulière, que c'était la meilleure équipe de la ligue, et bah pour l'instant ils se dirigent vers ce titre de champion. On enchaîne maintenant donc avec la série qui oppose les Pacers d'Indiana face à mes Knicks de New York. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que quand vous en avez parlé sur les émissions, j'ai eu le droit à ma petite dédicace quand vous avez parlé des Knicks. J'avais écouté, toujours. Ça m'avait fait plaisir. En tous les cas, il y a 2-1 pour les Pacers d'Indiana dans cette série. Les Pacers ont pris les deux premiers matchs à New York au Madison Square Garden, quelque chose qui est assez fort à faire quand on sait l'ambiance qu'il y a dans cette salle. Un dingue, c'est-à-dire que le scénario a été fou. Pour vous en parler rapidement, les Knicks étaient plutôt tranquilles dans le match. Dans le quatrième quart-temps, ils ont réussi à monter à environ plus de 15 points d'avance. Il y avait 9 points d'avance, il restait 50 secondes. Et le miracle a eu lieu, c'est-à-dire que Aaron Nesmith, donc l'ailier des Pacers, a mis 6-3 points d'affilée dans les 4 dernières minutes du dernier quart-temps pour vraiment me mettre un coup derrière la nuque. C'est-à-dire que je regardais 1-3 points, 2-3 points, 3-3 points, et là je me dis peut-être qu'il faut s'adapter défensivement. Ça switchait pas sur les écrans, je savais pas trop ce qui se passait. Finalement, Tyrese Haliburton monte la balle, il met un espèce de buzzer avec un shoot qui rebondit, qui redescend dans le cercle. À ce moment-là, j'éteins mon ordi parce que je me dis c'est le plus gros choc de l'histoire pour les Knicks. Finalement, c'était qu'un 2 points, on part en prolongation. Mais les Pacers auront été plus forts en prolongation et s'imposent et gagnent donc ce premier match. Le match 2, c'est plus la même histoire. Les Pacers font un très gros match avec un énorme Pascal Siakam qui met 39 points. Donc, ils ont géré leur rencontre de bout en bout. Les Knicks ont espéré faire un comeback parce qu'ils étaient menés 10 points et ils sont revenus à 1 point en fin de match. Malheureusement, les Pacers ont bien géré justement cette fin de match et prennent le deuxième match. Et le troisième match me redonne un peu d'espoir parce que les Knicks ont réussi à s'imposer à Indiana. Et avec un espèce de comeback encore fou. Donc comme tu disais Faustin, c'est la troisième fois que les Knicks en playoff ils font un comeback de 20 points, ce qui nous donne quand même des playoffs globalement historiques de par le jeu qu'on peut voir et tous les comebacks et toutes les statistiques là qui nous arrivent dans la tête. En tous les cas, donc on a eu le droit à un quatrième carton fou de la part des Knicks, une adaptation du coach Tom Thibodeau qui a ouvert son banc, chose qu'il ne fait pas beaucoup.
Jamais.
C'est ça. Donc c'était plutôt intéressant, on va dire. Les Pacers donc qui se sont écroulés offensivement et Karl Anthony Towns qui a été sensationnel, il inscrit 20 points dans le quatrième carton alors qu'il en avait mis que 4. Anthony Towns, 4, c'est pas mal aussi. Il n'avait mis que 4 sur les 3 premiers quart-temps. C'était assez exceptionnel. Et les Knicks ont réussi à s'imposer, donc 106 à 100. Sachant que, je vais pas vous mentir, à la mi-temps et même au milieu du match, quand Indiana avait ses 20 points d'avance, moi je me voyais déjà rentrer à la maison. 3-0, c'était fini, fin de la série. Mais non, les Knicks, c'est des durs à cuire, ils l'ont montré. Donc il y a 2-1 dans la série. Le match, il est à 2h cette nuit. Moi personnellement, je serai devant. J'imagine que ce sera pas le cas de tout le monde quand c'est dans la nuit. Mais on espère que ces Knicks, enfin en tout cas moi j'espère que ces Knicks vont pouvoir égaliser et nous offrir encore une série assez exceptionnelle.
Et on espère pour toi que ces Knicks iront en finale. Forcément, ouais. Merci beaucoup pour cette petite chronique basket. Je vais essayer de placer deux mots sur la MotoGP, forcément l'après Grand Prix de France ce week-end. Donc le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, à la fois frustrant, riche en émotions, qui nous mène donc dimanche à un Grand Prix ultra attendu, avec la troisième pole position de suite pour Fabio Quartararo, toujours à la recherche d'une victoire depuis 3 ans avec les constants problèmes de sa Yamaha, une machine qui lui a encore fait du tort après un départ canon, la chute des frères Marc dès le premier tour et le choix de ce pneu stick à l'avant qui semblait lui sourire. Un drapeau rouge est agité, synonyme de nouveau départ, une aubaine pour les frères Marquez mais aussi pour Fabio qui cette fois ne perd pas sa première place, prend même 5 secondes d'avance avant de voir son device se casser, ce qui le contraint à l'abandon à 7 tours de l'arrivée d'une course qu'il semblait déjà gagner. Victoire donc de Bezzecchi avec une nouvelle énorme performance de Juan Zarco qui finit donc deuxième dans cette course. Avant de se quitter, j'ai gardé ça exprès pour la fin. Messieurs, on a un match quand même samedi soir, un gros match. On n'a pas pu franchement en parler, on en parlera après. Mais le plus important, ça va rester le pronostic. À quoi on peut s'attendre? Voilà, Faustin, on va commencer. Peut-être un pronostic en 1, 2, 3 mots.
Ouais, très rapide.
Quelque chose de concis. Favori pour toi?
Favori. C'est vraiment compliqué là. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Évidemment, mon cœur me dit PSG. Je vais rester sur ça. Et si on va dire un score pour se mouiller, je vais dire un 3-1 PSG.
C'est osé.
Je me mouille,
Et toi, Paulin?
Ben moi, je vais rester un peu dans le scénario un peu fou qu'on a pu voir sur les demi-finales de Ligue des Champions, notamment entre l'Inter et le Barça. Et je vais forcément donner l'avantage à Paris. Objectivement ou subjectivement, je sais pas parce que le niveau est tellement proche, mais je vais dire 3-2 pour le PSG.
Le pari est pris. Moi, de mon côté, je pense qu'on va rester aussi sur un 3-2. C'était l'idée que j'avais, soit d'un côté, soit de l'autre. Mon cœur me dit 3-2 pour Paris, forcément, club français. Mais je pense malheureusement que l'Inter est favori à mes yeux, que c'est des bandits, comme dirait Stan.